J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est pour moi aussi, on s'engage. Je pense que en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, c'est parti pour près de 60 minutes d'échanges et de discussions sur des faits que vous vivez au quotidien. Des centaines de personnes vivant avec le VIH-SIDA et les leaders des ONG de lutte contre le SIDA en RDC ont organisé hier à Kinshasa une marche en vue d'amener les bailleurs des fonds de la lutte contre le VIH-SIDA à se mobiliser pour une reconstitution des ressources du Fonds mondial. L'institution financière internationale créée par l'ONU en vue de lutter contre trois pandémies, dont le VIH-SIDA. Cette manifestation est organisée après avoir constaté une diminution des fonds des ressources du Fonds mondial qui permet de prendre en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Selon l'Union congolaise des organisations et des personnes vivant avec le VIH-SIDA, en 2009, moins de 10% des PVV bénéficient du traitement aux antirétroviraux, au moment où 80% de ces personnes, comme tous les Congolais d'ailleurs, vivent avec moins de 1 dollar par jour. L'accès aux antirétroviraux est au centre de parole aux auditeurs de ce mardi. Dans vos milieux, comment les personnes vivant avec le VIH-SIDA accèdent-ils aux antirétroviraux? Selon vous, que faire pour un accès facile? Docteur Aimé Mboyo, du Programme national de lutte contre le VIH-SIDA, est notre invité. Nicole Ngaka, Peter Assisi sont à la réalisation de cette émission. Marie-Chantal Mumba à la présentation. On vous dit Dieudonné Niangasa à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à ca@radiocapi.net.
Bonjour, docteur Aimé Mbaye.
Aimé Mbaye.
Merci.
Bonjour, madame.
Oui, comme je l'ai dit, vous êtes du Programme national de lutte contre le VIH-SIDA. Vous êtes chargé même de la planification, si je ne me trompe.
En fait, je suis du Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA, le premier malade. Donc, je m'occupe entre autres de questions liées à la prise en charge des malades.
Donc, nous avons le bon invité pour cette émission. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'accès aux antirétroviraux. La RDC, comme la plupart des pays africains connaissent, une tendance presque de stabilisation du taux de prévalence du VIH-SIDA. Il y a même dans d'autres pays africains où il y a eu une légère baisse de ce taux de prévalence. Cette année, selon votre programme, le taux de prévalence est à 3,25%, ce qui n'est pas très différent du taux de l'année dernière. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces statistiques? Parce que quand on dit 3,25%, quand même pour un Congolais, on n'arrive pas à comprendre vraiment ce que ça veut dire.
Non, merci madame. Donc, en ce qui concerne la situation du VIH dans notre pays, il faut dire que pour suivre l'évolution de l'épidémie, le ministère de la Santé, à travers le programme spécialisé, le PNLS, organise régulièrement, annuellement, des enquêtes de sérosurveillance auprès des femmes enceintes qui fréquentent les services de CPM. Et donc, le dernier statistique en date établit ces chiffres de 4,3 de prévalence
pour les femmes enceintes.
Auprès de femmes enceintes qui fréquentent donc le service de CPN. Et donc, sur base de ces données générées par ces enquêtes, on utilise un logiciel développé par l'OMS et l'ONU-SIDA qui s'appelle EPIPIC Spectrum, sur base duquel on projette, on fait des estimations au niveau de la population en général.
Et donc, sur base générale, on est à 3,25
auprès de la population générale. Il faut dire que c'est énorme parce que notre pays connaît donc une épidémie qui est généralisée.
Donc, tout est cool. Voilà. Sans faire allusion au texte, âge et tout ça. Donc, tout le monde est catégorisé dans ce chiffre.
Ben, tout à fait. Donc, épidémie généralisée, ça veut dire que toutes les couches de la population sont touchées, de tout âge, de tout secteur d'activité économique, culturelle, etc. Voilà.
Est-ce qu'on peut avoir des chiffres assez simples? Par exemple, si on a 10 personnes, voilà. Combien souffrent du VIH-SIDA en RDC?
Alors, donc, sur base donc, de ces statistiques-là de prévalence, il faut dire que nous comptons 1 million, 185 464 personnes vivant avec le VIH. Donc, le poids est énorme en termes démographiques.
1 million, donc c'est presque la population de près de 60 millions. 1 million, donc on a presque un sixième, si on peut dire.
Oui, tout à fait. Et donc ça montre, et vous connaissez le nombre d'habitants de certains pays voisins, on ne va pas le citer, donc ils ne sont pas très loin de là. Donc en termes de poids démographique, nous avons une charge énorme en matière du VIH-SIDA.
Mais aussi l'UCOP qui a sorti ses chiffres en 2009, l'UCOP dit qu'environ moins de 10% des personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement aux antirétroviraux, au regard aussi de la situation économique de notre pays, et d'autant plus que déjà depuis 2008, on a voté une loi pour les personnes vivant avec le VIH-SIDA, où l'accès aux antirétroviraux doit être gratuit. Est-ce que, au regard de ces réalités au pays, pourquoi on est encore à moins de 10%?
Disons qu'on n'est plus tout à fait à une situation de moins de 10%. Donc, actuellement, donc aujourd'hui, à ce jour, nous avons 34 967 personnes qui bénéficient de ce traitement.
On va tomber dans les chiffres.
Voilà, donc ce qui représente 12% de couverture en termes de traitement. Donc il y a une augmentation. Cette tendance est presque constante. Ça va d'augmentation en augmentation. Mais probablement ou certainement, le rythme de cette augmentation ne nous permet pas encore de rencontrer tout le besoin que nous avons dans notre pays.
Est-ce que c'est expliqué aussi cette stabilité du taux de contamination ainsi que des personnes vivant avec le VIH-SIDA? C'est 2% d'accès aux antirétroviraux?
12%.
L'augmentation de 2% sur les 10.
Non, tout à fait. Il y a des avantages énormes en termes de traitement antirétroviral. Donc aujourd'hui, non seulement la thérapie antirétrovirale permet d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, donc de réduire la mortalité, le nombre de personnes qui décèdent du sida, mais ça aussi a des effets sur la prévention. Donc moins la personne a le virus dans son corps, la charge virale, moins plus elle est basse, moins la personne a la possibilité de transmettre le virus à une autre personne. Donc il y a un double avantage avec les ARS.
Bon, là, ce sont vraiment les considérations tout à fait de médecine et ainsi de suite. On ne va pas entrer vraiment dans tout ça.
D'accord.
Mais normalement, nous sommes aujourd'hui à 10%. Quand même, c'est assez faible, hein, au regard des besoins en RDC. Nous allons poser la question à nos auditeurs comme Stéphane de Kindou, Léon de Bénie, Norbert de Kinshasa. Comment, chez eux, ils arrivent à accéder aux antirétroviraux, ces personnes qui vivent avec le VIH-SIDA?
Parole aux auditeurs.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Calamonia. Je vais appeler à Monsieur de Kindou.
Oui. Dites-moi alors chez vous, comment ça se passe? Comment les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA accèdent-ils aux antirétroviraux?
Comment accèdent-ils aux antirétroviraux? Ça, je ne saurais pas les dire parce que je ne suis pas en contact avec eux. Sauf que mon intervention devait aller juste du danger qui se guette déjà au Maniema quand nous avons suivi par la radio Okapi, la publication de la FNMLS, notre situation. Nous sommes déjà à 4%, la moyenne dans la province, en raison de 4,2 à Kindou, et 4,2 pardon, au niveau de Kassongo, 3,8 ici à Kindou. Alors, pour nous, il fallait que des problèmes soient maintenant globales pour la sensibilisation. Parce que parmi les méthodes, il y a les églises aussi qui devaient intervenir. Or, les églises jusqu'à présent, moi aussi je suis chrétien, dans notre croyance, nous n'arrivons pas à adhérer aussi à d'autres méthodes telles que l'utilisation des préservatifs et quoi ça. Pour moi, les églises, avec ces dangers-là, les églises devaient ajouter en dehors de leur prédication contre les péchés. Ils devaient ajouter que si les gens n'ont pas peur des péchés, parce qu'ils prêchent toujours ces péchés-là, s'ils n'ont pas peur qu'ils acceptent les préservatifs et consorts, parce que s'ils avaient peur du péché, la situation ne devait être telle que nous la vivons aujourd'hui. Et ce qui est encore grave parmi ceux-là, peut-être qu'il y a aussi des pasteurs et des chrétiens comme nous, nous ne nous connaissons pas parce que nous avons honte et que nous sommes vraiment mécontents et préservatifs et d'autres méthodes.
Oui, s'il vous plaît, Stéphane.
Oui.
Et nous allons, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons de la prise en charge, mais c'est aussi difficile de parler de la prise en charge sans parler de la prévention. Mais aujourd'hui nous voudrions vraiment parler de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Nous n'allons pas entrer dans les considérations religieuses parce que là c'est un peu difficile pour nous. Chacun de nous a une foi, chacun de nous a une religion, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement les préservatifs et les vaccins. Peut-être que ça va de pair avec votre religion, mais aujourd'hui, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la prise en charge. Donc, comme vous l'avez dit, Stéphane Akindou, vous ne savez pas vraiment comment ça se passe chez vous pour qu'une personne vivant avec le VIH-SIDA puisse accéder aux antirétroviraux. C'est ça, en fait, que vous avez tenté de nous dire.
Oui, il y a des centres de santé. Nous suivons qu'il y a des centres de santé, là où il y a sans plus qui interviennent dans le cadre là. Mais il paraît que ces derniers temps, ils ne sont pas suffisamment financés. Vraiment, ils prennent en charge en argent, en nourriture. Et il y a aussi des centres de santé qu'on a ouverts dans les différents quartiers. Là, vraiment, je n'ai pas de précision.
Merci.
Mais ils sont pris en charge, mais pour le moment, en tout cas, ce n'est plus comme avant.
Merci beaucoup, Stéphane. Pour vous, il faut nécessairement mettre un accent sur la prévention. Regarde même des chiffres que vous avez donnés. Et le docteur Aimé Mbouyo, qui est du programme national, multisectoriel national de lutte contre le VIH-SIDA, pourra confirmer comment ça se passe à Kindu et qu'est-ce qu'il y a en marche pour les habitants de Kindu pour accéder aux antirétroviraux. Nous allons lui donner la parole tout juste après, le temps d'écouter aussi Léon de Béni. Bonjour Léon.
Bonjour, Marie-Chantal Yunga, à demain. Je vous rappelle à partir de 2012, juste dire que pour essayer de soulager la souffrance de nos frères congolais qui sont déjà atteints par le VIH, le cas congolais devrait d'abord analyser la situation dans laquelle se trouve la pharmacie. Donc, je pense que c'est la pharmacie qui produisait les vampires d'autrovirus. C'est depuis peut-être 2009. Cette pharmacie avait lancé un cri d'alarme qu'elle n'était pas encore capable de produire les antirétroviraux. Maintenant, l'État devait d'abord peut-être venir en aide à cette pharmacie pour que les médicaments soient accessibles partout. Si par exemple, ici à Béni, il y a certaines ONG locales qui s'occupent de ces gens-là. Mais une fois vous passez là, les personnes se présentent pour se faire tester. Si leurs résultats sont, par exemple, positifs, ils sont aussi liés à des difficultés d'accessibilité d'un médicament. Donc, l'État doit d'abord analyser les pharmacies qui produisent les médicaments pour les aider. Et deuxièmement, il faut que le test soit accessible partout. Puisque si vous lisez l'article 1er de la loi du 14 juillet 2008, qui faisait ces gens-là, vous comprenez que l'État peut donner l'obligation de donner l'accès libre, l'accès facile aux médicaments donc aux personnes-là. Il y a dans certains cas, les médicaments ni le test ne sont pas encore accessibles. Donc l'État doit quand même travailler lourdement pour que les gens là ne puissent pas enlever tous les Congolais.
Donc, qu'on puisse, que l'État puisse prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-SIDA, surtout un accès facile aux antirétroviraux. Voilà même la question qui est au centre de notre émission d'aujourd'hui. Merci Léon de Béni. Bonjour Norbert. Norbert, vous appelez à partir d'ici de Kinshasa. Norbert, nous espérons que vous êtes au bout du fil, Norbert. Nous avons perdu Norbert de Kinshasa. On pourra essayer de le recontacter plus tard pour qu'il puisse s'exprimer sur la question.
Parole aux auditeurs.
Je vous rappelle pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, c'est le 081 890 63 15, le 081 890 63 15, le temps que vous puissiez donner votre nom, la ville d'où vous appelez et votre numéro de téléphone, et nous allons vous rappeler pour que vous puissiez vous exprimer à ce sujet. Docteur Aimé Mbouyo, vous avez suivi nos auditeurs. Ils ont
tout à fait.
Ils ont donné leur avis sur la question. Dis-moi un peu, mais comment fait-on pour s'approvisionner en outils rétrovirants en RDC?
Merci pour la question, Marie-Chantal. Je voudrais, si vous permettez, juste rappeler un peu l'historique, comment ça a évolué l'accès aux antirétrovirants dans notre pays, et puis revenir à la question, comment y accéder. Donc, il faut aujourd'hui repartir trois moments, trois périodes tout à fait différentes. La première va de la période d'avant 2002. Avant 2002, donc, chacun devrait se débrouiller, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder aux antirétroviraux, et généralement, c'était des antirétroviraux reçus de transparents en dehors du pays.
Ça dépendait des relations que vous avez avec des structures ou
voilà,
avec des personnes qui font déjà du domaine.
Voilà, donc à partir de 2002, l'État, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place un partenariat public-privé avec un opérateur privé donc qui importait des médicaments génériques, des antirétroviraux, et les vendait à la population.
C'était à ce moment-là assez cher quand même.
Mais c'était $57, ça commençait à 57, jusqu'à ce qui est revenu aujourd'hui à 29$. Et cette phase a duré de 2002 à 2005.
Mais il faudrait quand même qu'on souligne que la prise des antirétroviraux est à vie.
Ah,
donc quand vous prenez $57, l'opérateur était obligé de vous fournir toute votre vie ce médicament.
Ben, j'arrive. Donc la troisième phase, c'est depuis 2005, le gouvernement, à travers tous les efforts qui ont été déployés sous le leadership du président de la République, etc. Et donc le gouvernement a pu mobiliser des ressources, principalement de partenaires extérieurs, pour pouvoir mettre en place des programmes qui assurent la gratuité de médicaments antirétroviraux. Donc depuis 2005 à ces jours, l'accès est gratuit aux médicaments antirétroviraux, mais cela ne nous met pas à l'abri de beaucoup de défis, de beaucoup de challenges. Donc aujourd'hui, comment on y accède? Donc à travers ces financements extérieurs qui viennent d'ailleurs avec des procédures pas toujours faciles
à
tout à fait. Donc à travers ces financements, que ce soit le Fonds mondial, le financement de la Banque mondiale et autres, et donc des structures sont financées, sont appuyées, et ces structures donc appuient des structures de santé. Donc, que ce soit le centre de santé, les hôpitaux généraux de référence au niveau des zones de santé. Et c'est à ce niveau-là qu'on forme le prestataire, ça veut dire le médecin, des infirmiers, le technicien de laboratoire, le pharmacien, etc., des gestionnaires de médicaments, pour pouvoir offrir gratuitement le médicament antirétroviral. Donc, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et donc, nous avons pu minimiser l'existence de cet opérateur privé qui n'a plus pratiquement de stock d'antirétroviraux, et nous passons par la filière d'accès gratuit mis en place suite à la mobilisation des ressources par le gouvernement.
Donc actuellement, dans chaque hôpital de référence, on peut accéder aux antirétroviraux?
Pas seulement au niveau des hôpitaux généraux de référence qui sont couverts, parce qu'il y en a d'autres, il faut reconnaître, qui ne sont pas encore couverts. Donc là, cette couverture est progressive. Depuis 2005, et nous cessons d'élargir le nombre de structures, que ce soit des hôpitaux généraux de référence, que ce soit des centres de santé de référence ou pas, et que ce soit même des hôpitaux de privés, des hôpitaux confessionnels, reçoivent donc cet appui à la directrice.
Et maintenant, quel est le rôle de la pharmacina dans tout ce rouage, dans ce processus? Parce qu'à une époque, la pharmacina avait commencé à pouvoir produire, si on peut dire comme ça, à pouvoir, je ne sais pas quel est le terme approprié, mais quand même, à partir de la pharmacina, on pouvait avoir des antirétroviraux.
Donc, pharmacina, c'est un de nos partenaires traditionnels en termes de santé et de santé publique dans notre pays. Et donc, depuis 2006, la pharmacina a pris donc l'initiative de produire localement des médicaments antirétroviraux, produits sous le nom d'Afrivir. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le ministère de la Santé a fait en particulier? Le ministère a déployé une équipe d'experts pour s'assurer de la qualité de ces antirétroviraux qui étaient fabriqués à Bukavu. Donc, après cette mission d'audit pharmaceutique, etc., le ministère a accordé depuis le 10 mai 2006 des autorisations de mise sur le marché de ce médicament. Mais seulement, voilà, pour que ce médicament soit, par exemple, acté avec des financements extérieurs, je parlais de procédures tout à l'heure, il faudrait absolument que ces molécules antirétrovirales produites par Pharmacina soient préqualifiées par l'OMS. Et la procédure de préqualification est assez exigeante et demande de moyens financiers. Donc la dernière mission que le ministère avait organisée, nous avons établi une feuille de route qui faisait à peu près autour de 1 600 000 dollars que Pharmacina devrait mobiliser pour pouvoir obtenir cette préqualification afin que les herbes produites par Pharmacina soient certifiées avec des financements externes.
Vraiment, c'est un peu compliqué pour nous-mêmes, mais en ce qu'on voudrait comprendre, est-ce que les antirétroviraux produits par Pharmacina peuvent être utilisés par les personnes vivant avec le VIH?
Tout à fait, c'est d'ailleurs en cours d'utilisation. Ça. Il y a des malades qui ont pris et qui probablement continuent à prendre encore des antirétroviraux. Après, ils vivent donc parler
au-delà de la certification, du contrôle et ainsi de suite. Donc, ils peuvent quand même continuer à prendre.
Mais non, le problème, c'est que je dis, il y a un programme, des programmes de gratuité publique avec des procédures sur base de préqualification. Et pour le moment, on acquiert ça auprès des firmes extérieures. Et donc, Pharmacina, c'est le plus vraiment compétitif. Et quoi qu'il ne met plus assez de moyens, d'efforts pour obtenir cette préqualification de l'OMS.
Donc, accès aux antirétroviraux, l'accès, si c'est gratuit, vraiment, réellement, je ne pense pas que pour une personne vivant avec VIH-SIDA, ce n'est pas un problème de savoir si ça vient de Pharmacina ou n'importe quoi. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir son comprimé tous les jours ou ses médicaments tous les jours. Nous avons pu recontacter Norbert, mais nous allons aussi écouter Kiton, Dr. Joe Makwalufu, qui est expert en VIH-SIDA, juste après ce sujet.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Norbert.
Bonjour madame.
J'espère que voilà, vous êtes là, vous m'avez pu couper, hein, parce que là, on a aussi envie de savoir ce que vous voulez nous dire sur l'accès aux antirétroviraux.
Bon, c'est un problème des réseaux, mais je n'avais pas coupé.
Non, vous écoutez Norbert.
Bon, ma préoccupation était celle-ci. Parce que je suis fier d'abord et content de cette campagne que le ministère de la Santé est en train de faire. Mais je me demandais une seule chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir donner des produits antiviraux comme on donne des vitamines? Alors, si on voit bien, on fait des études sur le sida, mais c'était peut-être le moyen de pouvoir donner aux gens des produits comme on les donne gratuitement, mais les incorporer dans les traitements, on peut dire, élémentaires, comme on donne des vitamines B.
Donc, je n'arrive pas à vous comprendre, Norbert, comme on donne des vitamines. Quelle différence pour une personne qui prend ses vitamines et une personne qui prend son comprimé antirétroviral?
Bon, je me dis comment. Comme nous prenons les vitamines, dès que vous arrivez, quel que soit, vous êtes malade ou pas, on nous recommande après 3 mois de pouvoir prendre les vitamines. Alors, je me dis pour les antis, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le médecin trouve cette solution de dire comment, même si la personne est
en train... Une prévention contre le sida en prenant des médicaments.
Oui.
On peut dire un vaccin contre le VIH-SIDA.
Voilà, je me dis comment. Il y a des produits qui donnent gratuitement. Alors, il n'y a pas moyen de pouvoir donner aux gens, par exemple, dire comment, même si vous êtes atteint, je peux dire comme nous sommes des vaccins, hein, que... donner avant, quelle que soit la personne est atteinte, parce qu'il n'y a pas moyen, quand ils sont en train de faire les études sur ici, nous voyons toujours le nombre est en train d'augmenter. Ça se parle maintenant dans le monde entier, que non, je dis comment, l'évolution du sida est toujours à la haute. Il n'y a pas moyen de pouvoir faire des vaccins gratuitement, mais ils donnent les produits gratuitement.
Merci Norbert, on comprend votre préoccupation. Donc un vaccin contre le VIH-SIDA, mais les recherches se poursuivent en laboratoire. Hein, mais en tout cas, docteur, je pense que vous allez le dire avec moi, il n'y a pas de vaccin contre le VIH-SIDA.
Mais jusque-là, il n'y a pas de vaccin pour prévenir du VIH, et donc on ne peut pas aussi distribuer des antirétroviraux comme ça.
Et on n'en prend que quand on est malade.
Mais il y a des critères. Donc il y a des critères, aussi bien des critères cliniques que des critères biologiques. Donc on ne peut pas comme ça faire de la prophylaxie très
efficace. Alors écoute, Piston de Walikale, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Oui, Piston, on vous écoute. Comment suivez-vous les personnes vivant avec les VIH-SIDA accèdent-ils aux antirétroviraux?
Oui, d'une toute façon, je dois d'abord commencer par la désolation par rapport désolation par rapport à une situation déplorable sur la non prise en charge de ces victimes-là, et surtout que le territoire de Walikale est totalement enclavé et tous les moyens possibles n'est pas présent ou n'est pas présent dans le territoire de Walikale, où on enregistre actuellement et la situation qui n'est pas favorable sur tous les plans. Où vous allez voir le victime là, ou du moins le victime de l'accident, et encore dans le territoire de Walikale, c'est comme un site minier qui était en actualité dans le territoire. Vous allez constater que pas mal de victimes qui seraient, n'est-ce pas, enregistrées en territoire de Walikale. Alors, présentement, avec non-assistance, même à part l'assistance de MSF Hollande qui était présente en territoire du Walikale, mais actuellement, c'est MSF Hollande qui prenait en charge ce défi-là. Mais actuellement, je vous dis, c'est catastrophique. Et même les que le territoire est enclavé, même les routes où atterrissaient les avions là pour approvisionner le territoire du Walikale, actuellement, c'est fermé. Donc, tout ce monde-là sont victimes par rapport à ces situations où, je vous dis, même les victimes des VHK sont actuellement au manquement des médicaments, oui, au manquement des ARV.
Merci,
c'est déplorable en territoire de Walikale.
Merci.
On lance un cri d'alarme à toutes les autorités congolaises en fait de penser en territoire de Walikale pour l'instant, assister ces victimes, assister toute population du territoire de Walikale à ces situations qui découlent
actuellement. Merci, Tiston.
Voilà.
Merci, Tiston, pour votre témoignage. Hein. Nous allons écouter aussi Dr. Dio. C'est de dire que Tiston, Walikale, il y a vraiment des problèmes. On regarde même des conflits armés qu'on rencontre à Walikale, aussi le fait que ce soit une zone minière, que les personnes vivent en pleine promiscuité. Bon, il y a beaucoup de facteurs et de paramètres hein, qui permettent en fait une expansion du VIH/SIDA. Merci pour votre témoignage et tout ce effort que vous êtes en train de lancer. Nous allons prendre Dr. Joe Bakwaluku, l'expert en VIH/SIDA. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Aujourd'hui, nous parlons de l'accès aux antirétroviraux. Nécessairement, c'est sûr que vous savez comment ça se passe dans notre pays. Quelles sont vraiment les difficultés pour ces PVV une fois pour toutes? Parce que moins de 12%, comme l'a dit le docteur, c'est quand même insuffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces personnes puissent accéder facilement aux antirétroviraux?
Madame, vous posez une question à la fois très complexe. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut d'abord commencer à partir de le départ. C'est dire que avec le critère que nous appliquions au pays jusque-là, on estimait à plus de 200 000 personnes qui étaient éligibles, donc qui avaient besoin de prendre des traitements antirétroviraux. Et ce critère étant réduit encore un peu à la hausse, ça veut dire que nous allons attendre plus de 200 000 personnes au-delà même de ce que nous avions, qui devraient encore avoir plus besoin. Mais voilà. Pendant que ces besoins sont en train d'accroître, et les ressources sont par contre en train de s'amaigrir. Ce qui est maintenant là, vous posez un problème très très profond. Parce que maintenant, on a acquis environ 12% de ceux qui avaient besoin. Là encore, dans les 12%, il fallait prendre le dénominateur d'environ 200 et quelques mille de personnes. Maintenant que le dénominateur est en train de changer, je pense que ce pourcentage va encore davantage baisser. Donc, nous ne pourrons plus encore penser à avoir 12%. Nous ne pouvons plus parler en termes de 12%. Je veux dire que ça sera certainement moins de 12% de ceux qui vont bénéficier des traitements antirétroviraux. Comment y accéder? Je pense ici qu'il faudrait regarder parce que, à ma connaissance, il y a un grand bailleur de fonds, c'est le Fonds mondial qui donne pratiquement 90% de ces personnes qui sont sous traitement aux antirétroviraux. Et donc, ça veut dire qu'il faut maintenant regarder de près quelles peuvent être les autres voies de secours qui peuvent permettre qu'effectivement il y ait assez d'antirétroviraux. Mais dire qu'il y a antirétroviraux, tout simplement, c'est être à la fois simpliste. Les antirétroviraux, on ne les prend pas comme on prendrait l'aspirine. Donc, ça suppose qu'il faut qu'il y ait aussi des prestataires encore formés. Ça suppose qu'il y ait encore assez de structures capables d'encadrer ces personnes. Et ça suppose qu'il faudrait qu'on ait encore dépisté assez de personnes. Voilà, je trouve ça assez complexe. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je trouve ça assez complexe.
Donc, trouver d'autres voies pour avoir des fonds en vue de
au-delà du partenaire principal que nous avons aujourd'hui au pays et qui est le Fonds mondial.
Mm-hmm.
Parce que pour une raison ou une autre, s'il y a un problème, ce que je ne peux pas du tout souhaiter, avec ces bailleurs, ça veut dire que ça sera vraiment la véritable désolation.
Mm-hmm. Pour la RDC, vous soulignez la formation des prestataires, donc c'est tout un système qu'il faudrait essayer de renforcer pour que les personnes vivant avec le VIH-SIDA puissent accéder facilement aux antirétroviraux. Merci beaucoup, docteur Dio,
pour
votre participation, votre intervention. Bonjour, Blaise de Kinshasa. Blaise?
Bonjour, madame.
Oui, Blaise, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour un accès facile aux antirétroviraux?
Oui, je tiens d'abord à me présenter encore, madame. Je disais que j'appelais depuis la ville de Kinshasa, à l'université de Kinshasa.
Mm-hmm.
Et je suis représentant de l'association Étudiants Congolais en Action, chargé du programme SIDA au sein de cette association.
S'il vous plaît, Blaise, est-ce que vous pouvez carrément éteindre votre poste récepteur ou carrément vous en éloigner? Ben, ça serait une meilleure qualité de son.
Oui, j'essaie de m'éloigner, madame.
Mm-hmm. Donc, le temps que vous vous, vous éloignez de votre poste récepteur, vous êtes présent en tant que président des étudiants. On vous écoute, quelles sont vos propositions?
Oui, je disais ceci parce que je venais à tantôt de suivre le docteur avec beaucoup d'attention. Et je me suis d'emblée dit que, bah, lui, il disait que c'est vraiment complexe. Je me dis que nous, il y a beaucoup de stratégies que nous avons tenté de mettre en place pour essayer un peu de remettre encore les choses en marche. Parce qu'il y a longtemps, nous avons essayé beaucoup plus de mener des sensibilisations. Nous avons sensibilisé les camarades, selon les hommes, selon les auditoires. Mais jusque-là, ça n'a pas vraiment produit un effet vraiment très capital. Néanmoins, je voulais beaucoup plus solliciter parce que nous sommes une association, une structure vraiment bien organisée. Mais c'est que c'est un peu d'handicaper les activités à notre niveau parce que les docteurs, les grands problèmes aujourd'hui, parce que le sida c'est vraiment un fléau, c'est un fléau. Et les cibles, les grandes cibles, ce sont les jeunes, en particulier les étudiants que nous sommes. Alors, quand j'ai essayé un peu de suivre les docteurs, ça nous a vraiment beaucoup touché. Alors, moi, je voulais beaucoup solliciter, surtout au niveau du PNMLS, le programme national, ou au niveau du PNMLS aussi. Qu'ils viennent essayer, qu'ils essaient un peu de créer des stratégies, de créer des synergies pour que nous puissions travailler en collaboration. Parce qu'il y a des cas, mais les gens, les cas sont vraiment isolés.
Ah, vous savez pas comment.
Quand vous quelqu'un, vous l'invitez à venir se faire dépister, il est un peu frustré, il se dit non, voilà. Alors, il faut qu'on arrive à créer vraiment des stratégies capables de cadrer, d'organiser pour essayer un peu de. Parce que jusque là, je ne sais pas, quand j'ai suivi les dossiers, je n'ai pas suivi là où il a parlé, peut-être des taux. Et des taux
universitaires,
en particulier à l'université de Kinshasa. La situation s'aggrave du jour au jour.
Donc, vous êtes en train de travailler dans la prévention. En tout cas, nous vous encourageons. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est vrai que vous dites qu'il y a plusieurs étudiants qui hésitent encore de se faire dépister, ce qui permet une contamination assez large. Merci Blaise pour votre intervention et surtout, comme nous avons votre numéro de téléphone, on pourra vous recontacter pour vous donner aussi un numéro de téléphone du programme multisectoriel national de lutte contre le VIH-SIDA. Comme ça, vous serez en collaboration, vous pourrez continuer à travailler ensemble. Merci Blaise de Kinshasa. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour Marie Chantalumba.
Vous êtes à Kalando Kassé Occidental. On vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Oui, Marie, vous devez d'abord savoir que je suis très mobile dans cette province. Je suis en train d'expliquer ça et là.
Mm-hmm.
Je commence d'abord avec la situation d'Ilebo. Je vous assure qu'il n'y a aucune structure qui prenne en charge ces gens-là. Donc, ceux-là qui sont malades. Or, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est le positionnement de ce territoire-là, parce que ce territoire-là accueille très facilement les Kinois, les Lushois, les Kanangais, voire même les gens de Chikapa. Et la conséquence, c'est quoi? C'est la maladie qui se propage un peu trop vite là. Et puis, des statistiques de ce côté-là, c'est presque inexistant. Hein. Or, moi, je pense que le véritable moyen pour lutter contre cette maladie-là, donc, ce n'est pas de se concentrer au niveau des grands centres, au niveau des grandes villes. Il faut aller donc dans des territoires un peu stratégiques comme le territoire d'Ilebola et puis équiper ce territoire-là avec beaucoup de structures. Actuellement, maintenant, ici à Kananga, parce que c'est ici que je vis, il se pose un petit problème. Je ne sais pas si c'est le même constat que dans certaines villes. les gens qui ont cette maladie-là ne se manifestent pas. Hein? C'est comme si ils sont en train de vivre dans une clandestinité, ils ont honte, ils ont peur, et c'est ce qui accroît encore le taux donc de cette maladie-là ici à Kananga.
Ce serait difficile, hein, vous pensez que ces personnes devraient se faire connaître, mais aussi n'oubliez pas qu'il y a le dépistage volontaire, donc bien sûr il est toujours nécessaire de pouvoir connaître son état sérologique, ce qui vous permet d'avoir un certain comportement responsable. Merci beaucoup Adrien de Kananga pour votre témoignage et votre intervention. Nous allons prendre Aimé de Bounia, ce sera le dernier auditeur pour cette seconde série. Bonjour Aimé. Aimé?
Bonjour.
Aimé, on vous écoute. À Bounia, comment ça se passe? Nous avons
pris.
Oui. Il est encore là. Aimé, on vous écoute.
Oui, j'aimerais parler de notre cas propre de Bounia. Par exemple, il y a eu la semaine passée, la distribution, la prise en charge par le CNMLS. Ça va?
Oui, on vous écoute. Alors, on vous écoute.
J'aimerais poser une question. Est-ce que. Oui.
Et mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît éteindre votre poste récepteur? Et ce conseil-là, c'est pour tous ceux qui voudront participer à cette émission, s'exprimer. Vraiment, avant de pouvoir passer à l'antenne, prenez la peine de pouvoir éteindre votre poste récepteur. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur. Là, il n'y aura pas longtemps de répondre. Alors, s'il vous plaît, Aimé, on peut y aller.
Oui, je suis auteur de la radio. Je vais parler de des cas de TNMLS, par exemple. J'ai une question à poser à mon docteur. Par exemple, le prendre à chaque événement. Deuxième question. Le docteur, par exemple, il a parlé de ce qu'il a pris par le gouvernement. Il n'y aura pas moyen pour le gouvernement de le prendre, de l'appeler par exemple dans des cas propres à eux. C'est ça que je fais seulement.
Mettre des gens dans des propres, ça c'est un peu discriminatoire. Vous ne trouvez pas parce qu'une personne qui est atteinte du VIH-SIDA, est-ce que vous pensez qu'elle est différente vraiment de tout le monde? Vous pensez qu'elle perd ses capacités? Est-ce que vous pensez que c'est un handicap? Comment est-ce que vous les côtoyez? Comment est-ce que vous les considérez, lui?
Bon, à Bounia, tellement, je n'ai pas la prise parce que je suis au capitre au niveau de l'IST, mais à ce qui concerne le pourcentage, tellement je ne vais pas vous estimer combien, à quel pourcentage qui se trouve. Mais, déjà, selon les informations, selon les différentes sensibilisations au sein des différentes radios, je peux vous parler de quelques cas que nous vivons déjà.
Oui, parce que vous avez souhaité qu'on puisse mettre les personnes qui vivent avec le VIH-SIDA dans un camp, si je vous ai bien suivi. C'était ça votre problème.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que vous pensez que cela est bon pour une personne qui vit avec le VIH-SIDA? Est-ce que cela, vous ne pensez pas que c'est discriminatoire?
Bon, je ne sais pas, ce n'est pas une discrimination. Parce que si nous voulons bien, c'est juste pour leur bien et pour bien le surveiller, en ce qui concerne leurs soins, en ce qui concerne leurs différentes protections.
Ça, c'est votre point de vue, mais n'oubliez pas qu'une personne qui vit avec le VIH-SIDA, et comme vous, il n'y a pas vraiment de différence à part qu'elle vit avec sa maladie, et vous connaissez bien les mots de contagion, ça signifie que vous pouvez dormir, manger, vous laver avec une personne qui vit avec le VIH-SIDA sans être contaminée, mais c'est votre point de vue. De vue plutôt à vous,
Aimé
de Bounia. Et nous vous disons merci pour votre intervention à partir de la province orientale. La réaction de Christine qui est à Blanchard, donc nous allons prendre Blanchard en une minute pour qu'on puisse aussi donner le temps à notre invité. Il s'agit de Dr Aimé Mbouyou et du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA. Blanchard, vous avez une minute. Blanchard? Bonjour Blanchard. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter. Il fera partie de la troisième série d'auditeurs que nous aurons au cours de cette émission.
de lundi à vendredi, 18h15 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose une émission économique pour connaître les tendances du marché, les évolutions des cours de devises, les entreprises qui s'installent et leur impact sur la vie sociale. Suivez Éco d'économie. Éco d'économie, c'est l'ensemble des actes à portée économique du pays ainsi que leurs effets sur la vie quotidienne. Éco d'économie, lundi à vendredi, 18h15 sur le Kinshasa.
Et nous poursuivons parole aux auditeurs. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'accès aux antirétroviraux. Et nous avons dans ce studio le docteur Aimé Mboyo, qui est du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Docteur, vous avez suivi nos auditeurs. La plupart sont revenus sur les fonds qu'il faudrait allouer pour la lutte contre le VIH/SIDA, surtout pour l'accès aux antirétroviraux. Il y a eu d'ailleurs hier une marche où tous les acteurs des ONG qui luttent contre le VIH/SIDA et même des personnes vivant avec le VIH/SIDA, ils ont organisé cette marche pour manifester le fait qu'ils ont constaté qu'il y a une diminution des fonds pour lutter contre le VIH/SIDA, surtout que ces fonds permettent de prendre en charge plusieurs personnes vivant avec le VIH qui sont obligées de prendre ce médicament à vie. Face à cette diminution, comment est-ce que vous réagissez?
Merci Marie-Chantal. Je voudrais juste, avant de répondre à cette question, rassurer notre compatriote Fiston, Doa Lipazé, pour lui dire que depuis le départ de Médecins sans frontières Hollande, et donc nos compatriotes qui sont sous traitement antirétroviral n'ont pas connu de rupture de traitement, parce qu'à partir d'Assamès, à Goma, ils continuent à recevoir des médicaments. Voilà. Donc, un entrepôt à Samet, qui est basé à Goma, on continue à approvisionner le territoire de Walikale, l'hôpital général de référence, par des antirétroviraux. Alors, par rapport à la question de ressources, il faut dire que la problématique, elle se pose au niveau international, au niveau de tous les pays.
Avec la crise financière mondiale.
La crise financière mondiale, etc. Et donc, nous n'avons pas baissé les bras. Et les efforts sont maintenus pour pouvoir continuer à mobiliser des ressources. Non seulement mobiliser des ressources auprès de partenaires extérieurs, mais à partir de 2011, nous allons aussi mobiliser des ressources budgétaires de l'État. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental à souligner, parce que ça nous permettra non seulement d'être dépendants de financements extérieurs qui sont assez pas toujours faciles, avec des procédures assez complexes, mais maintenant, à partir de 2011, nous allons mobiliser des ressources budgétaires de l'État pour accroître le financement de la lutte contre le sida, y compris, bien entendu, le traitement antirétroviral.
Oui, la lutte contre le sida, ça fait partie aussi des objectifs du millénaire pour le développement. Et au cours de la dernière session de l'Assemblée générale, le secrétaire général avait souligné que malgré qu'il y a eu cette crise financière, il a demandé aux bailleurs de fonds, aux États, de ne pas baisser les bras pour pouvoir aider les pays qui en ont besoin, surtout fournir les fonds nécessaires pour aider les populations. Donc, c'est autant de problèmes que ça se pose sur le plan mondial. Mais entre-temps, en RDC, au regard de toutes ces difficultés, est-ce que quand même il y a de l'espoir, une voie de sortie pour avoir plus de 12% des personnes vivant avec le VIH/SIDA qui puissent accéder aux antirétroviraux?
Mais tout à fait, madame. Tout à fait, il y a de l'espoir et nous devons l'entretenir en rassurant nos populations. Parce que, comme j'ai dit, les ressources, nous les mobilisons non seulement des partenaires, mais aussi de l'État. Et ces ressources, une fois mobilisées, vont nous permettre d'augmenter les nombres de structures de dépistage volontaire, vont nous permettre d'augmenter le nombre de médecins, de infirmiers, donc des professionnels de santé qui vont avoir la capacité technique souhaitée pour mieux prendre en charge le malade du sida. Et ces ressources mobilisées vont nous permettre d'acquérir ces médicaments antirétroviraux, mais aussi les équipements des laboratoires, parce qu'il n'y a pas que des ARV. En tant que tel, il y a aussi des examens de laboratoire pour le suivi de l'indique, ainsi de suite, mais aussi d'autres aspects connexes liés à la prise en charge globale de malades du sida. Il y a donc espoir, et je pense que la tendance que je décrivais tout à l'heure de croissance va se poursuivre, et on ne va pas baisser les bras.
On ne va pas baisser les bras, mais quand même, quelques critères, parce que toutes ces personnes qui vivent avec le VIH/SIDA ne prennent nécessairement pas des antirétroviraux.
Non, ce n'est pas, c'est pas automatique. C'est, ça ne veut pas dire que vous êtes infecté par le VIH, et tout vous devez accéder aux antirétroviraux. Donc, il y a, on ne va pas entrer dans le détail, il y a des critères cliniques et des critères biologiques sur base desquels le médecin apprécie pour déterminer si telle ou telle autre personne est infectée par le VIH peut commencer son traitement antirétroviral. Et quand il le commence, c'est un traitement à vie, vous le soulignez tout à l'heure.
Mmh, donc l'essentiel, c'est de pouvoir connaître l'état sérologique et le dépistage volontaire. C'est la meilleure façon pour les personnes qui veulent savoir. Le dépistage aussi gratuit.
Ah, tout à fait.
Nous allons suivre Blanchard. Je pense que nous l'avons recontacté. C'est Guillaume de Kindou, Malonga de Bandundu. Mais aussi, nous allons revenir à vous, docteur, hein, pour qu'on puisse avoir en fait la politique générale, comment ça se passe, parce qu'il y a tellement des coins recoins de la RDC, c'est vrai que partout, on a des hôpitaux de référence, vous avez dit qu'il y a des endroits où ce n'est pas couvert, mais comment on fait quand même pour pallier au fait que certains hôpitaux ne soient pas couverts par votre programme ou par notre programme. Bonjour Blanchard.
Bonjour Marie-Chantal.
Oui, Blanchard à Kinshasa, c'est pour la j'espère que vous êtes avec nous. Dites-nous quelles sont vos propositions.
Oui, moi je propose à ceux qui ont pu se chercher un personnel qualifié qui sera mieux payé. Parce que il y a 2 mois j'étais à Mbandaka, je me suis décidé d'aller faire le dépistage volontaire. Et je faisais 3 jours, je cherchais un endroit où je peux me dépister. Je trouvais toujours toutes ces personnes absentes de leur lieu de vie.
Donc vous êtes allé dans un hôpital, est-ce que vous avez pu essayer de contacter une structure, parce qu'il y a par exemple à Mokongo qui est un peu partout en RDC, est-ce que vous avez essayé de les contacter?
Oui, j'étais là, mais ils étaient toujours absents, bon, je ne sais pas s'ils avaient effectué un déplacement, je n'avais pas vraiment quelqu'un qui pouvait m'expliquer pourquoi toutes ces absences.
Mais j'espère que vous ne serez pas découragé. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant que quelqu'un puisse lui-même, parce qu'on parle de dépistage volontaire, c'est assez intéressant. Donc continuez, hein, je suis sûr qu'un jour vous allez arriver, vous allez trouver les portes ouvertes. Surtout ne vous découragez pas. Merci Blanchard. Bonjour Guylain. Guylain de Kindou. Non. Nous avons perdu Guila de Kindou, Malonga du Bandundu. Bonjour.
Bonjour Marie-Chantal.
Mm-hmm. On vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Ok, merci. Avant de donner mes propositions, je vais montrer d'abord mes regrets concernant la distribution de ces antirétroviraux. Bon, on emploie souvent gratuitement. Bon, c'est en français, mais quelque chose de très dit et graphique. Bon, je crois que la personne qui bénéficie ça, elle peut seulement fournir son énergie pour récupérer ça. Mais pour le bien ou bien le bien de banque, elle ne peut pas perdre cela. Mais ici chez nous, nous voyons toutes choses qui sont déclarées gratuites ne sont pas distribués gratuitement. Quel est le cas de nos stickers en Pérou? On déclare que c'est distribué gratuitement. Mais arrivé sur place, on ne le distribue pas gratuitement. Même chez antirétroviraux. On arrive ici personnellement d'abord. Je n'ai pas encore assisté aux attributions de ce genre des antirétroviraux, mais ce que je crois, ça doit aussi se passer comme les autres choses de la suite.
Donc ce sont des appréhensions que vous avez.
Oui. Allô?
Oui, je vous écoute, Malonga.
Oui, je propose ceci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à notre docteur qui est là, elle est ici, il n'y a pas moyen de connaître les pistes de ce CGG pour que ces choses de leur concerne passent à la maison même à partir de ces domiciles pour que réellement et l'entourage et le voisinage confirment que oui, la personne qui est vraiment victime de la VIH a accepté ou bien a eu quelque chose de la provenance, soit que
vous voulez que la distribution se fasse du porte-à-porte, hein? C'est un peu ça votre souhait.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et je suis rendu là-bas. Vous voyez, vous venez d'écouter sur les
questions. Mais heureusement, s'il vous plaît, Malonga.
Pour le
mais heureusement, Malonga, je vous ai dit que ce ne sont que des appréhensions. Mais essayez quand même de mener votre petite enquête. Essayez de voir est-ce que réellement les PGV ont un problème pour accéder à ces antirétroviraux. Parce que ce sont des témoignages comme ça que nous voulons entendre. Parce que là, ce sont des appréhensions. Et ils apprennent qu'il y a des moustiquaires qui devaient se donner gratuitement, mais on vend. Est-ce que, bon, c'est vrai, vu la réalité du pays, il peut y avoir certaines personnes qui agissent de la sorte. Mais essayez quand même d'avoir des témoignages un peu plus concrets dans ce que vous disiez. Vous souhaitez que cette distribution se fasse de porte à porte. Merci Malonga pour votre intervention. Nous allons prendre Martin de Bandundu encore une fois. Bonjour Martin.
Bonjour Madame Chantal.
Et Martin, comme d'habitude, essayez quand même d'éteindre votre porte récepteur avant d'intervenir.
Ok, je vais entendre mon ami.
Merci Martin, parce que là ça fait un vide à l'antenne et qu'il y aurait eu d'autres auditeurs qui auraient pu intervenir. Mais Martin, on vous écoute, quelles sont vos propositions? Est-ce que vous êtes du même avis que Malonga de votre province?
Ok, moi j'aimerais parler sur le dépistage volontaire.
Mm-hmm.
Parce que je me rends compte comme si le gouvernement, le programme prévoit seulement des grands hôpitaux dans des grandes villes. Mais à l'intérieur de la province, par exemple, nous avons des problèmes parce qu'il y a des gens qui veulent être dépistés, mais n'ont pas accès, même aux médicaments. Là, c'est-à-dire, je ne sais pas si le programme prévoit seulement d'occuper des grandes villes, mais à l'intérieur des provinces, qu'est-ce que le programme prévoit? Ça, c'est la question que j'aimerais adresser à notre invité. Qu'est-ce qu'ils ont aussi prévu des mesures pour occuper aussi des salles de santé qui se trouvent à l'intérieur de vos provinces, des salles de santé, tout ça, pour que ceux qui sont aussi à l'intérieur aussi puissent aussi avoir des accès à des ARV au lieu d'exercer, tu vois, c'est tout simplement de venir ici en ville pour prendre les produits.
Merci Martin. L'invité va répondre à votre question, mais n'oubliez pas que là, quand même au niveau de la santé, notre pays est quand même bien structuré. Nous avons des zones de santé, des aires de santé, donc ça va jusqu'au plus petit niveau de la structure sanitaire. Mais nous allons parler tout de suite avec notre invité. Il y a aussi Ken de Kisangani qui nous a écrit, il dit que si, est-ce que le PNMLS à Kisangani a fermé ses portes. Donc il veut aussi profiter, il voudrait savoir quelle est votre politique en dehors de Kinshasa, comment ça se passe. Docteur Mboyo, vous avez la parole.
Merci, je salue les différents auditeurs qui ont parlé. Alors, je crois que ce qu'on doit retenir, c'est que c'est vrai, la couverture n'est pas, on est loin d'avoir une couverture totale en termes d'accès au traitement antirétroviraux.
Mais au moins, vous êtes présent dans chaque province.
Mais voilà, la stratégie.
Il y a un déséquilibre dans les provinces.
Non, donc aujourd'hui, il faut reconnaître que, en tout cas, tous les chefs lieux de province sont couverts. Tous les chefs lieux de district sont en cours, ils sont en voie d'être couverts, et nous devons aller au-delà. Et donc, la décentralisation de l'offre de services par rapport à la lutte contre le sida, que ce soit la prise en charge des ARV et des autres, doit se poursuivre. Et comme je dis, les ressources qui sont constamment d'être mobilisées, c'est pour nous permettre d'étendre notre couverture, de ne pas se limiter seulement au niveau des centres urbains, d'aller jusqu'au niveau de milieux ruraux. La structure de notre population nous l'impose. 70% de la population congolaise, qui pas plus, vivent en milieu rural. Donc, on n'a pas de choix. On doit aller vers le milieu rural.
Donc, on regarde les statistiques. Il y a plus de personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les milieux ruraux ou bien c'est dans les milieux urbains?
Ah, mais ça dépend d'une province à une autre. Mais il y a de milieux où, effectivement, la charge vient de milieu rural. Et donc, ce qu'on doit faire, il faut augmenter le nombre de médecins. D'abord, la présence le personnel de santé dans ces milieux ruraux, il faut le former pour les qualifier, le rendre compétent, mais aussi pour les motiver. Il y a un auditeur qui a souligné cet aspect de choses au niveau de l'Équateur, en Badaka, donc il faut le former pour les qualifier et bien les motiver pour qu'ils puissent prendre en charge les malades de manière tout à fait consciente.
Mmh. Et aussi, nous revenons aussi à cette question de Kindu Kisangani. Apparemment, on ne voit pas les actions de PNMLS à Kisangani. On peut poser des questions si vous existez.
Ah ben, tout à fait. Dans la province orientale ou dans la ville de Kisangani, le PNMLS, la lutte contre les SIDA est bel et bien là. Alors, s'il y a des actions, nous parlons de l'accès aux antirétrovirants, juste lui dire, on a connu une situation assez préoccupante avec le grand centre de traitement de Kisangani par rapport aux malades du SIDA. Ça a été transformé, n'est-ce pas, suivant la nouvelle approche du ministère de la Santé, et tous les malades qui suivaient donc leur traitement au niveau du CPA de Kisangani, soit à l'hôpital général, mais pas à Makisso, et soit dans beaucoup d'autres centres de santé répartis dans la ville de Kisangani.
Donc, on arrive presque à la fin de cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir plutôt de l'accès aux antirétroviraux?
D'abord, merci pour l'invitation. Ce que nous pouvons retenir, c'est que des efforts sont constamment développés pour pouvoir mobiliser davantage des ressources, non seulement auprès des partenaires extérieurs, mais aussi auprès de l'État, pour permettre à ce que le nombre de professionnels de santé qui puissent être à même de soigner, de prendre en charge les malades du SIDA, d'acquérir les médicaments, etc., puissent se faire. Et aussi, il faut dire que nous ne devons pas seulement mettre l'accent sur les traitements antirétroviraux, parce que sur deux personnes qui accèdent au traitement, cinq ont besoin, n'est-ce pas, de la petite s'infecte nouvellement. Donc, nous devons faire l'équilibre, donc prendre en compte les aspects traitement, mais aussi prendre en compte les aspects liés à la prévention. Et avec, dans le contexte des ressources limitées, c'est pas toujours facile, mais l'espoir est là, nous maintenons l'état.
Merci beaucoup, docteur Aimé Mboyo. Vous êtes du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.
Ouais.
Allô? Il ne répond pas?
Nous voulons également merci aux auditeurs, ceux qui nous ont suivis en FM sur www.radiocapi.net. Nous vous disons merci, mais nous nous excusons auprès de ceux qui n'ont pas pu intervenir, on n'avait pas assez de temps pour eux. Mais néanmoins, vous pouvez poster votre réaction sur notre site dans la rubrique Parole aux auditeurs. Demain, nous allons discuter de l'accès au courant électrique. En effet, la semaine vient de réceptionner de nouveaux lots importants de matériel en vue d'améliorer la distribution en courant électrique. Quelle est la situation chez vous et que faire pour améliorer cette fourniture en courant électrique? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. À demain.